Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de chanter? Alors si vous le permettez, je vous invite à vous lever, on va ensemble bénir le Seigneur encore. Et si vous êtes d'accord, vous dites amen après, bien évidemment, à ce qu'on va partager. Nous te bénissons, c'est vrai, de tout notre cœur. Tout ce que nous avons chanté, nous voulons le croire. Nous croyons que tu es vraiment inébranlable, que tu es au-dessus de toutes choses. Que ta grandeur n'est pas compréhensible à l'être humain, mais par la foi, nous pouvons percevoir tellement d'aspects te concernant. Nous prions que ce matin, tu sois le maître de ces moments encore, règne dans nos cœurs, sois glorifié, que ta parole pénètre nos âmes, que tu viennes faire ton œuvre par ton esprit dans nos cœurs. Nous ne voulons pas écouter pour écouter, nous habituer, mais nous voulons, Seigneur, que tu parles de diverses manières. Et tu dis aussi dans ta parole que tu envoies ta parole et tu les guéris. Tu dis aussi que dans ta présence, tout est possible. Et nous prions vraiment que ce matin ici, mais aussi avec ceux qui sont connectés, Seigneur, ta bonne main touche les cœurs. On a besoin de toi. Affermis notre foi, de nous d'être fermes en toi par ta grâce. Merci parce que tu nous aimes et tu nous invites à pas être compétents par nous-mêmes, mais à dépendre de toi quotidiennement. C'est ce que nous voulons faire ce matin à l'écoute de ta parole. Amen. Amen. Prenez en place. Alléluia. Voilà, beaucoup de joie, bien sûr, à revenir parmi vous. Hein. On était en vacances, mais j'avoue que c'est bien les vacances, mais c'est bien aussi les communions fraternelles. Hein. Je voudrais partager quelque chose de précis, un verset qui va être le support de notre rencontre ce matin. Peut-être, bien sûr, vous allez dire, mais moi je ne suis pas concerné, mais un jour ou un autre, on est concerné par ce qu'on va partager. Ou on l'a été, ou on l'est. Et vous allez voir, d'entrée, je vais le mettre, c'est ce psaume d'Azaf, psaume 73, et je vous l'ai mis en français courant, hein, BFC, ça veut dire la Bible en français courant, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et voici ce que dit ce verset, on le lit ensemble, vous l'avez à l'écran, mais vous pouvez chercher votre Bible dans votre version que vous avez, qui n'est peut-être pas la même. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais, j'aime bien ça, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Alléluia. Vous bien qu'on le s'imprègne un petit peu, on le relit. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mais mon appui, mon bien, on le croit et on est... Je dirais en adéquation avec ce que dit le Azaf ici, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Alléluia. Alléluia. Hein, il y a quelque temps, j'ai pu traverser, comme beaucoup d'entre nous, des moments un peu compliqués. Il peut y avoir des fois dans nos vies une période de grande incertitude. D'ailleurs, il est pasteur, c'est pas normal. Écoutez, si vous pensez ça, c'est que vous avez rien compris à la vie. Mais bon, je ferme la parenthèse. Hein? Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des responsabilités, des décisions à prendre difficiles. Et puis, une fatigue intérieure peut s'installer, que l'on n'arrive pas à nommer, ou on se surprend à ressentir des choses. Il y a un petit souci. C'est moi qui l'ai fait, peut-être ? Non ? Merci. On peut ressentir des choses dans nos cœurs, des sentiments, des émotions qui ne sont pas vraiment ce qu'on souhaiterait. On se dit, mais je connais Dieu, et puis ces sentiments un petit peu tristes... Il peut y avoir du vide, un manque de ressources, ça peut être lié à un problème de fatigue physique, de surmenage, etc. Et parfois on peut ressentir des émotions plutôt accablantes que pesantes. Et alors la foi à ce moment-là, en tant que chrétien, il y a une forme de réflexion qui s'installe, en plus de culpabilité qui peut se rajouter là-dessus. Mais bon, je ne vais pas développer tout ça, on sait ce que c'est les sentiments humains. Hein. Y a-t-il un androïde parmi nous? Non. Hein. Heureusement, qu'il est celui sur qui on peut s'appuyer. Hein? Mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Si vous ne savez pas quoi écrire dans l'entrée de votre maison, vous pouvez le marquer au feutre, hein, vous les enfants, sur la tapisserie de la maison, vous pouvez marquer ça. Mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Alléluia. Ce n'est pas juste un slogan. Ce n'est pas juste une parole pour faire bien, dans un psaume, une parole chantée. C'était vraiment une réalité. Il parle là, dans le psaume 73, de ce que le peuple d'Israël va vivre pendant des années. Il y a des déceptions, des frustrations, vous le lirez chez vous, le psaume 73, les particuliers. D'ailleurs, dans d'autres versions, la fin, vous savez, quand il dit « Mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours », d'autres versions diront ceci, « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ça, c'est Louis II. Dans la version Martin, mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. Dans la version Semeur, mon corps peut s'épuiser, mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Alléluia. Je ne sais pas la version que vous préférez, peu importe. Ce qui importe, c'est que nous y croyons. Et nous l'attestons et nous le confirmons par notre engagement et par notre foi. Si vous regardez la fin de ce chapitre, je ne le fais pas là ce matin, et permettez-moi de ne pas y aller. C'est le verset 28. Il va dire, pour moi, vous connaissez peut-être mieux ce verset, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, vous savez, quand vous l'avez expérimenté certainement, quand nous n'allons pas bien, à cause de souffrances, de situations compliquées, eh bien, on a du mal à s'approcher de Dieu. C'est pas vrai? Et on a des réactions, des choses qui s'érigent dans nos pensées, qui nous font, bien sûr, voilà, soit je vis dans la culpabilité toujours, je dis Dieu, Dieu, mais je n'ai pas le cœur, ça c'est de l'hypocrisie religieuse. Soit je suis conscient de qui je suis et j'ai besoin de vraiment m'approcher de Dieu, mais il y a un combat, il y a des fois des choses difficiles. Et la foi, c'est un combat, le bon combat de la foi, ce n'est pas juste des rites après des rites, c'est un combat intérieur, avec ses pensées souvent, contre soi-même ou contre des pensées extérieures. Comment sortir de ces temps que l'on peut vivre? Que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments où on a le corps épuisé, le cœur aussi? Alors bien sûr, si vous êtes jeune, j'espère que vous n'avez pas le corps épuisé, hein, ni le cœur. Mais vous savez, avec l'âge, je ne parle pas en connaissance de cause encore, parfois oui, hein, on a un corps qui s'épuise. Un corps qui s'épuise, mais il y a aussi surtout un cœur fatigué intérieurement, chargé. Vous savez, la Bible reconnaît profondément les moments d'épuisement, physique, émotionnel. J'aime la parole parce qu'elle ne cache pas les vérités de l'être humain. Et même les vérités de l'enfant de Dieu. Hein, et nous ne voulons pas faire du déni, nous ne voulons pas faire de l'autosuggestion en disant ça va toujours très bien, alléluia, alléluia, alors que dans ton cœur ça ne va pas. Il faut être vrai, mais il faut être plein d'espérance, plein de foi. Alors, vous avez compris, le message c'est quand mon corps et mon cœur s'épuisent. Hein. Je ne vais pas faire lever la main à ceux qui ont le corps épuisé. Hein, ça serait malvenu. Premièrement, je dirais, comment faire? Ben, faut reconnaître notre état, reconnaître les émotions qui en découlent, être honnête avec soi-même. On peut se sentir longtemps faible à cause de ses ressentis aussi. Souvent, on le sait bien, on est un tout, hein. Nous, souvent, on corps, âme et esprit, on fait des saucissons, on coupe, on tranche. Mais la réalité, c'est qu'on est un tout. Et vous entendez parler de ces fameuses maladies somatiques, etc. Et c'est vrai que, d'après la Bible, l'être intérieur, notre foi et notre communion, mais aussi notre stabilité intérieure, a une interaction sur le corps. C'est la santé pour tes os, il est dit tout un tas de versets, et ça c'était écrit bien avant ce que la science a pu nous dire, parce que Dieu est bien au-delà de la science. Hein. Donc, il y a une réalité, c'est que, la Bible ne condamne pas les émotions. Hein. La Bible les révèle. Elle révèle des mauvaises attitudes d'hommes et de femmes, des fois des bonnes, de très bonnes attitudes, des fois pas du tout. Elle les révèle. Elle les éclaire, c'est-à-dire elle les montre, elle les met en évidence. Des fois, un prophète va parler, des fois, ils vont aller vers un roi. Il va y avoir des choses qui sont dites parce que Dieu veut révéler ce qui est en train de se passer et il transforme certaines choses. Il veut transformer. Hein, ça, c'est ce que dit la Bible. La Bible nous montre qu'il y a des situations de relèvement, de restauration, des changements complets. Le peuple est dans le désarroi, mais voilà que maintenant, ils sont dans un autre état. Pourquoi? Parce que Dieu a fait grâce. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu est puissant, il veut agir. Regardez David, Jérémie, Élie, Anne, et j'aurais pu allonger la liste. Chacun d'entre eux ont vécu des temps compliqués. Jérémie, il est dans la fosse. Hein, il a de la... parce qu'il a dit le conseil de Dieu, ben, il se retrouve dans la citerne parce que ça ne plaît pas ce qu'il dit. Je crois que c'est Jérémie 38 jusqu'à 40. Et voici qu'un homme, Ebed-Melech, par le biais de cet homme-là, il y a toute une démarche. Le prophète Élie, vous savez très bien, on a entendu parler maintes fois, hein, qu'il veut mourir sous le genêt, alors que c'est quelques heures avant, il est l'instrument de Dieu pour démontrer la gloire de Dieu. Hein, il va faire sur le mont Carmel ce que Dieu lui demande. Et il nous est dit donc que Dieu va attester ce sacrifice-là sur cet autel par le feu qu'il envoie. Et puis Anne, qui était stérile, hein, Samuel chapitre 1er, elle était stérile, elle pleurait devant Dieu, elle était là, L'homme de Dieu, il a cru qu'elle avait pris un coup de trop, bu un coup de trop au café du coin, et ce n'était pas le cas. Hein, et on sait qu'elle va enfanter. Jésus lui-même pleura. Et je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette vérité que Jésus a pleuré. Ici, dans Jean 11, 35, Jésus pleura, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Devant le tombeau de qui ? De Lazare. De Lazare. Alors, on peut s'interroger. Il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Pourquoi il pleure ? Et Jésus a été profondément ému en voyant la douleur de ses proches, n'est-ce pas ? Il n'a pas pleuré parce que seulement pour Lazare, je crois, je pense, hein, voilà, je pense ainsi. Mais il a vu Marie, il a vu la sœur de Lazare, il y a eu ces reproches qui ont été faits à Jésus concernant le fait qu'il est tardé. Hein. Mais ici, il voit Marie, il voit la sœur de Lazare, il les voit pleurer. Il est ému de compassion, il a une compassion sincère. Et ça, je dirais, c'est bon pour nous de savoir que Dieu n'est pas un être insensible ou juste... en disant, ça c'est leur monde à eux, puis bon, je reste comme ça, moi. Dieu n'est pas comme ça. On voit que Jésus est venu, il va être plein de conscience de la souffrance qui est liée à la perte de leur frère Lazare, et il est touché par ce chagrin profond qu'ont manifeste ses sœurs. Il y a aussi cet amour pour Lazare, parce qu'il nous dit que Lazare était qui pour lui ? Son ami. Il était son ami. Hein ? Et ce n'est pas écrit pour toutes les personnes dans la Bible, hein, mais il est fait mention que Lazare était l'ami de Jésus. Et les larmes de Jésus montrent qu'il n'était pas insensible à la perte même temporaire, même s'il savait qu'il allait le ressusciter. Il n'était pas insensible à Lazare. Vous voyez ? Et Dieu n'est pas insensible à chacun d'entre nous. Dieu connaît toutes choses. Ça va ? Et puis, il partage la souffrance humaine. Jésus, bien qu'étant fils de Dieu, étant de nature divine aussi, a pleinement embrassé la condition humaine, n'est-ce pas ? Il est venu comme un simple homme. Il a été vraiment homme. Hein, il n'était pas fait. Quand on mettait le doigt sur lui, il y avait bien de la chair. Ce n'était pas juste une apparition, comme certains font croire, hein, qui ne connaissent pas la Bible. Mais il est bien homme. Et ses larmes révèlent qu'il comprend et partage les douleurs, n'est-ce pas ? Alléluia. Le premier miracle a été fait mention tout à l'heure par Fabien du premier miracle. C'était où ? C'était un mariage. C'était pas dans un temple quand même, ils auraient pu faire dans un temple. Hein. Non, c'était un mariage. Il vient vers la réalité de ce que sont les êtres humains, de ce qu'ils vivent. Il vient montrer qu'il est proche de chacun. Donc ça nous montre quoi ? Dieu n'est pas distant. Dieu n'est pas distant. Dieu est proche. Alléluia. Il souffre avec nous. Donc comprenez ce que je veux dire là. Il souffre avec nous dans le sens qu'il connaît nos situations. Il n'est pas sans émotion par rapport à ce qu'on vit. Il est un Père céleste. Jésus ne pleure pas par impuissance, ici, dans le récit de Lazare. Mais pourquoi ? Parce qu'il aime, par amour. Quand on n'a pas d'émotion, c'est qu'on n'aime pas. Hein. Quand on n'a pas d'émotion envers quelqu'un, on n'a rien à faire, c'est qu'on n'aime pas du tout l'autre. Mais quand on aime quelqu'un, on est touché parce qu'il est... voilà. Moi, si vous voulez m'énerver, vous insultez ma femme. Hein. Vous allez me voir partir vite. Hein. Vous allez terrer à courir. Mais c'est pas bien. Mais voilà. Ne le faites pas, et puis ne me faites pas courir. Hein. D'accord ? Ça veut dire par là que, comme j'aime ma femme, si quelqu'un disait quelque chose, ou serait dur, ou je sais pas, menacerait, je serais alors un tyran, un dragon. Pourquoi ? Parce que j'aime, et je veux protéger. J'espère que vous, Marie, vous avez la même attitude, hein, parce que vous aimez votre épouse et que vous voulez protéger. Jésus ne pleure pas par impuissance, mais par amour. Et nous, comme nous aimons, nous voulons aussi protéger. Bon, la foi n'annule pas l'émotion. La foi ne nous lobotomise pas au point que l'émotion n'a plus. On est tellement spirituel qu'on est insensible à la vie humaine. Non, on n'est pas des êtres humains préfabriqués, je ne sais pas où, dans une... Non, on est des êtres humains normaux qui avons des sentiments. D'ailleurs, Dieu lui-même a des sentiments, mais il nous aime. Et il veut nous donner de réfléchir à ces choses. Je fais cette parenthèse parce que c'est important. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il vaut mieux faire du déni, des chrétiens qui disent « Ça va ? Oui, ça va ! Avec Dieu, ça va !» Et là-dedans, c'est des arroyes plus complets. Hein. Comme si on levait le tapis, vous savez, comme quand je l'ai fait une fois que j'étais gamin, je devais balayer, je levais le tapis. T'as balayé ? Oui, maman, menteur. Hein. T'as fini ? Oui, c'est propre, tu parles. Hein. Ouais, il faut avouer ses fautes. Hein. Mais vous en avez fait aussi, hein. Vous ne manquez pas trop, vous, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui est-ce qui rigolait. Ressentir, ce n'est pas péché. Ce qui serait péché, c'est de s'appuyer que sur ses émotions et rester accablé par ses émotions tout le temps. Dans le temps, ce serait péché.
Et pour les émotions, fuir les émotions, ça aussi, ça peut nous éloigner aussi de Dieu. Ça peut nous rendre hypocrites. Ça peut nous rendre, double de la duplicité. Mais Dieu ne nous demande pas ça. Dieu ne veut pas que nous laissions dominer par nos émotions, c'est vrai, mais il ne nous dit pas de les renier, ou de les abandonner, de les rejeter, ou de faire croire qu'elles n'existent pas. On ne doit pas les... Ah, je l'avais mis, je crois. Voilà. On veut pas, il ne faut pas que nous les nions, hein, c'est, le français c'est bizarre, hein, et nous les diabolisions. Hein. Il ne faut pas le faire, parce que ce serait terrible. Nous devons plutôt le remercier de nous donner de pouvoir gérer ces choses-là, et d'apprendre à gérer ces émotions qui souvent sont là. Et la Bible dit, c'est pour ça que la Bible dit dans Romains 12, 2, par exemple, « Ne conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de l'entendement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Quand les émotions submergent négativement, parce que quand c'est les négatives, souvent qui submergent, pourraient submerger notre cœur, il faut arriver à chercher Dieu au point que ces émotions, peu à peu, prennent leur juste valeur. On a vite fait de laisser les choses prendre une ampleur pas possible. Mais la foi, aussi autorité dans ces moments-là, on en parlera tout à l'heure. Mon cœur peut s'épuiser, mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais, mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi. Ce mec qui introduit vraiment là une porte, une solution, une possibilité, quelque chose de formidable. Et j'ai fait un constat maintenant, c'est laissons Dieu entrer dans le tumulte intérieur. Tumulte intérieur de nos cœurs, quand des fois ça s'agite, quand là-dedans ça s'accélère. C'est pas vous, mais moi ça s'accélère des fois. Et des fois, même en prêchant, j'ai plein de pensées qui viennent, je suis obligé de me canaliser, de faire attention pour pas partir dans tous les sens. Voici ce que vous connaissez ce passage, mais vous le lis dans une autre version pour justement redonner un petit peu de réflexion, parce que sinon c'est devenu mécanique dans nos têtes. Ne vous mettez pas en souci pour rien. Ah. Tu peux le remettre, s'il te plaît. C'est moi qui fais, je sais pas. Allez, je vous le lis. Vous ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Vas-y, encore. Merci. Voilà. Encore. Un coup. Voilà. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera, quoi, votre cœur et votre pensée, ou vos pensées, sous la protection de Jésus-Christ. Alléluia. Hein, c'est des versets très clairs. Ici, c'est-à-dire que ne vous mettez pas dans le tumulte, laissez Dieu entrer dans le tumulte de votre vie, de notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ne va pas, on aurait tendance à focaliser sur le problème et à laisser un peu Dieu là. Oui, alors on parle à Dieu parce qu'on lui dit que voilà pourquoi il se passe ça. Et on reste là focalisé. Mais là, vous voyez bien ici que nous sommes invités à exposer nos besoins à Dieu. C'est là où on laisse entrer Dieu, je dirais. Vous allez me dire, mais moi, je suis enfant de Dieu, Dieu est dans ma vie. Oui, 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 mais vous savez que nos pensées, c'est nous qui décidons comment on fait les choses. Bien sûr, il a autorité, mais il ne nous impose pas. Il attend que nous l'invitions, que nous exposions, que nous livrions notre cœur. Il attend que vraiment nous soyons honnêtes. Que nous ne soyons pas de ceux qui partent comme un guerrier, oui, tout va bien, alors que ça ne va pas, qu'ils fassent croire que. On n'est pas là pour parader, on est là pour vivre dans la foi. On est là pour être vraiment honnête avec Dieu. Et il est nécessaire de bien se rappeler ces choses. Hein. C'est important. Je continue sur laisser Dieu entrer. La paix de Dieu ne vient pas de l'absence de troubles. Et ça, c'est très important. Hein, quand il dit « Faites connaître à Dieu vos besoins », dans la version Louis II, hein, par des prières, etc. Et la paix de Dieu, il n'est pas dit maintenant, attendez qu'il n'y ait plus de troubles, vous allez voir, la paix de Dieu va arriver. Non, non. Et ici, elle ne vient pas de l'absence de troubles, mais de la présence de Dieu au milieu du trouble. Vous avez compris avec moi, là, vous êtes avec moi. C'est du français, ce que j'ai écrit. Ouais, vous me rassurez, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas clair. Hein. Ça veut dire que quand je prie et que je suis dans une situation compliquée, que je demande à Dieu, je expose ma situation, je sais déjà qu'il la connaît, mais la Bible dit de le dire. Parce que le dire, c'est aussi reconnaître que j'ai besoin de lui. Quand je ne le dis pas, il sait, il devrait faire. Non, mais il sait, mais je dois lui dire, et je lui dis, parce que je sais qu'en lui disant, j'ouvre mon cœur, je suis en train de répandre mon cœur. Et ici, il ne nous est pas dit, attends que tu sois dans la paix, et puis après ça va continuer bien pour ta vie. Non, il dit non, il dit pas ça. Il dit, livre ton cœur, et vraiment, répands ton cœur, expose à Dieu ces choses, et reçois en contrepartie la paix de Dieu.
Ça veut dire que ben, tu n'attends pas que le trouble soit parti, parce qu'il sera encore là. Mais ce qui est formidable, c'est que lui, il va manifester sa présence encore plus, d'une manière précise, manière glorieuse. Alléluia. C'est important. Donc ne prions pas pour que nos émotions disparaissent, mais plutôt qu'elles soient présentées, livrées à Dieu, qu'elles soient soumises à Dieu, comme exposées sur l'autel. Je viens devant toi, je te livre ce que je suis, mes situations. Sans toi, que pourrais-je faire? Mais avec toi, on peut faire des exploits, Seigneur. Alors je suis peut-être encore dans le trouble, je suis peut-être mal en point, mais je peux retrouver un petit peu la paix, un petit peu la paix, pour pouvoir avancer et continuer à avancer. En fait, il faut vouloir et accepter que Dieu puisse apposer sa paix. Je sais pas, j'espère que c'est du français, ça. Apposer sa paix. C'est-à-dire qu'il puisse me communiquer sa paix. Quand on cherche Dieu et on se livre à lui, eh bien, c'est jamais en vain. Hein. Vous rappelez, Jésus citera, quand tu pries entre dans ta chambre, hein, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Il te voit, et il sait. Il te le rendra, t'inquiète pas. Sois assuré, il sera là. D'accord ? Pour dire, toi, tu ne t'occupes pas de sa part, occupe-toi de la tienne. Hein ? Toi, entre dans ta chambre, parle au Seigneur, livre-toi à lui. Et mes frères et sœurs, on veut s'encourager, si quelqu'un parmi nous ne va pas bien, je vous encourage, je t'encourage, selon la parole de Dieu, à t'approcher du Père et à livrer ton cœur. Et reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Vous allez dire, mais moi, je suis fatigué, vous comprenez, j'y arrive pas. Oui, mais tu peux recevoir la paix de Dieu quand même. Justement parce que tu es fatigué. Justement parce que ton corps ne suit pas. Justement parce que tu es mal en point, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Reçois sa paix. Sois assuré déjà de sa présence dans ton cœur. C'est quelque chose d'important. Alléluia. Hein ? Alors, il y a souvent le problème, c'est que souvent, on veut savoir. Alors, on veut savoir pourquoi, et on est toujours en train de calculer, de vouloir tout maîtriser. Ça, c'est notre nature humaine qui veut tout contrôler. On a une capacité, mais cette capacité, on va la chercher sur des choses, des fois, où il faudrait plutôt laisser ces capacités de côté et dire à Dieu, écoute-moi, tu ne comprends pas tout, pas vous, mais moi, je ne comprends pas toujours tout. Mais ce que je sais, c'est que lui, c'est tout. Et lui va agir en conséquence, pourvu que moi, je reste dans le droit fil de ce qu'il veut et que je ne m'embarrasse pas de tout un tas de pensées ou de réactions qui m'amèneraient à sortir du dessein de Dieu. Et puis, j'ai envie de dire, et j'ai envie, je le dis, il est nécessaire de louer Dieu quand ça ne va pas dans sa vie. Comment peut-on le faire ? Comment peut-on louer Dieu quand tout semble mal, aller mal dans sa vie ? Est-ce possible ? Bien sûr qu'au début, ce n'est pas naturel. C'est pas naturel, mais c'est possible. Ça semble être contre, anormal de faire ces choses. Ce n'est pas intuitif, ce n'est pas normal. Mais c'est justement dans ces moments-là que la louange devient un acte de foi profond et puissant. C'est pour ça que, par exemple, il dira « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Je dis à mon âme « Bénis l'Éternel. Hein ». Pourquoi dans les psaumes, il est souvent fait mention, on voit l'attitude de l'être humain livré, ses sentiments, ses émotions, et puis une réaction spirituelle. C'est pour nous encourager à faire pas de même. À dire, écoute, te laisse pas tomber dans le désarroi à cause du contexte, à cause de la mauvaise nouvelle, à cause de ton corps peut-être qui est pas, y a pas de solution à vue humaine, mais le Dieu Tout-Puissant, lui, nous invite à réagir spirituellement. Alors on l'a fait, parce que je pense que tout le monde, tout chrétien, quand il est en situation compliquée, il prie, Seigneur, aide-moi, secours-moi, mais il se laisse submerger par ses émotions. C'est pas Seigneur, aide-moi, je t'en supplie, permets-moi de recevoir ta paix. Reçois mon cœur, vois ma vie et donne-moi d'aller plus loin. La louange, ça recentre notre cœur. Elle nous rappelle la louange qui est Dieu. Alléluia. Hein, je ne sais pas si vous suivez avec moi, mais même quand nos circonstances sont chaotiques. Moi, j'aime Job, par exemple, il va dire l'Éternel a donné. Qu'est-ce qu'il dit ? L'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'est pas un slogan, même si des fois on peut l'utiliser comme un slogan, mais il choisit la louange malgré la douleur. Bien sûr, il dit des choses. Hein. Il y a plein de chapitres où il dit des choses qui sont compliquées. Mais après avoir tout perdu, il dit quand même, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Moi, je me serais arrêté à l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et lui, il dit que le nom de l'Éternel soit béni. David, qui se retrouve pourchassé par Saül, vous savez qu'il est pourchassé plusieurs fois, et même il va aller chez le roi Achish, à chaque fois ce nom ça me fait sourire, Achish, parce qu'il dit il va me tuer. Parce que Saül en veut à David, il voit pertinemment qu'il va devenir roi, Il le poursuit plusieurs fois. David se cache. Et chaque fois, on voit, ils sont à deux doigts de se faire attraper. Il est à deux doigts de se faire lyncher par Saül. Mais au psaume 34, il va dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Pourtant, il était en situation compliquée. Donc la louange recentre notre cœur, elle nous rappelle qui est Dieu, même quand nos circonstances sont chaotiques. La louange, elle libère la paix. Louer Dieu, c'est reconnaître quelque part qu'il est souverain et que ben, il est Dieu, il a le droit de savoir plus que moi, et moi je suis là, et voilà, je ne comprends pas tout. Mais quand je loue Dieu, c'est comme si je disais, écoute, maintenant je te laisse le contrôle de cette situation. Bien sûr que je vais faire ma part, mais ma part c'est de me soumettre à toi. C'est de croire que tu vas faire grâce, que tu vas faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je vais te faire confiance. Ça ouvre aussi la voie à la victoire. Souvent, dans la parole, il y a des victoires du peuple. On est surpris, il y a une victoire. Ils se retrouvent, le peuple d'Israël, en situation compliquée. Ils savent qu'il y a une armée qui vient devant eux. Qu'est-ce que dira le prophète ? Pas le prophète, un don spirituel, dirons-nous. Tenez-vous dans cette vallée, louez le Seigneur. Louez-le, et vous verrez. Alors ils sont dans une vallée, ils sont là, et les autres sont dans une autre vallée, il semblerait un peu plus loin. Et alors qu'ils n'ont pas prévu d'attaquer, il n'y a pas une stratégie militaire, il n'y a rien de mis en place. Jésus se dit, élevez le nom de Dieu, et loue le Seigneur, etc. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient là-bas, dans la vallée, les autres qui s'entretuent. Et la louange n'est pas juste pour combler un culte, on ne savait pas quoi faire, on a fait de la louange, hein, mais la louange aussi ouvre à la victoire. Hein. Le peuple de Juda chante des louanges avant même la bataille, et Dieu va leur donner une victoire impressionnante. Ils n'ont pas eu besoin de faire quoi que ce soit d'autre, si ce n'est de célébrer le Seigneur. Et des fois, dans l'adversité, il nous faut bénir le Seigneur. Des fois, il réglera le problème de lui-même, parfaitement, à sa mesure. Et des fois, il nous invitera à patienter, mais à rester dans la paix et le repos de la foi. Amen. Mon cœur peut s'épuiser, mon corps aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu pour toujours. Quand nous sommes épuisés, quand nous sommes fatigués, la chair nous amène à quoi faire ? À s'isoler. Et puis, presque on en veut à tout le monde autour de nous. Ah, ça, c'est entre nous. C'est pas vrai ? On m'appelle pas. Hein. On s'occupe pas de moi. Et puis, Non, vous reméguez pas, vous. Hein. Si ? Ah, ben, vous allez demander pardon au Seigneur. Non, je plaisante. Hein. Ne t'isole pas à cause de ton épuisement. Ne t'isole pas. Et là, je plaisante pas. C'est nécessaire de vraiment faire attention. Parce que quand on s'isole, on est vulnérable encore plus. Et l'ennemi va se charger de vous mettre un peu plus de poids sur la tête. Hein. Un peu plus de souffrance, un peu plus de comportement, de choses qu'on ne voudrait pas avoir. Plaçons plutôt toute notre confiance en lui. Plaçons toute notre foi dans ce qui il est et dans sa grandeur. Ne soyons pas de ceux qui se laissent facilement arrêter par ses propres pensées, nos propres pensées, qui sont des fois alimentées par des choses qui ne sont pas saines. Nos pensées doivent être alimentées par la parole. Si on ne sait pas quoi... Alors il y a des gens, ils me disent, mais quand je souffre, je ne peux pas lire la Bible. C'est vrai, mais l'Esprit Saint, comme fonction, souvent, c'est de rappeler à notre esprit sa parole, ce qu'il nous a enseigné. Et il y a des moments, vous n'avez pas toujours... Moi, je n'ai pas toujours la parole ouverte, la Bible ouverte. Hein, et des fois, je l'ai, des fois, je ne l'ai pas. Et quand, en voiture, par exemple, je passe à une situation, hop, un verset me revient à l'esprit, et ce n'est pas parce que je suis pasteur. Hein. Ça, c'est pour tout à chacun. Si on lit la parole, il y a des moments où le verset nous revient à l'esprit. C'est comme si Dieu nous disait, voilà, c'est ça pour l'instant, c'est ça. Ou une pensée précise. Et Dieu nous parle, et Dieu nous encourage. Pourquoi ? Parce qu'il alimente notre foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit que c'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. J'ai cru que tout le monde a dit yes. Ouais, il veut parfaire notre foi. Et le parfaire notre foi, le Seigneur. Hein ? Et le problème est trop souvent que l'on veut tout savoir. Pourquoi le Seigneur me fait emprunter ce chemin ? Pourquoi ceci ? Et presque on fait un procès de Jésus ou de Dieu parce que ça semble injuste. Hein ? Et on se sent éprouvé mentalement et physiquement. On se dit, est-ce qu'il ne m'aime plus ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Nos pensées s'agitent, s'entrechoquent, et même elles se bousculent ou se cristallisent. C'est vrai, hein ? Et on a connu, malheureusement, des personnes qui, dans des moments d'épreuve, au lieu de s'accrocher encore plus au Seigneur et à l'Église, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en vont, abandonnent la foi. Je ne juge pas, hein. Je ne les condamne pas. Par contre, je dis, haut et fort, c'est parce qu'il faut faire. C'est tout l'inverse. Quand ça ne va pas, viens plus à l'Église. Quand ça ne va pas, cherche plus Dieu. quand ça ne va pas, ne te laisse pas couler dans, comment dire, faire naufrage par tes pensées. Voilà, chercher le mot. Ne fais pas naufrage par tes pensées, hein, mais laisse Dieu entrer dans le tumulte intérieur. Et il peut calmer, comme quand il monte dans la barque, la tempête. Des fois, non. Des fois, il semble dormir, mais il ne dort pas. Et après ces moments, après ces temps où ça prend du temps, il y a encore plein d'émotions qui sont encore là sous-jacentes. Il y a eu un temps où la paix de Dieu vient, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un oubli, que tout est, ça y est, c'est l'électrocardiogramme, il est plat, quoi. Non, il n'y a pas eu un oubli, les choses sont là, c'est encore là. Mais il y a des choses que Dieu veut nous faire comprendre. Alors je vous ai mis le verset dans 2 Corinthiens 1, 3, 4, et j'ai mis en couleur ce que je voudrais souligner. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console, alléluia, dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions quoi faire ? Consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ce que nous vivons, et après des bons moments où Dieu a permis que, dans ces moments difficiles, douloureux, moments où le corps et le cœur étaient ébranlés, Dieu a mis sa paix. Voilà, et voilà. Quelques temps après, parfois, on va rencontrer des situations, des personnes qui sont dans une situation analogue à ce qu'on a vécu, dans le sens un peu difficile, un peu douloureuse, incompliqué. Et comme vous êtes passé dans certains chemins et que vous avez vu comment Dieu vous a aidé, vous allez pouvoir mieux comprendre, mieux compatir. Vous n'allez pas obliger les gens à faire comme vous, ça, c'est pas ce qu'il faut faire, mais vous allez pouvoir mieux aider la personne à aller plus loin. Et c'est ce que dit ce verset. Si Dieu nous a consolés, on peut dire aux autres, tu m'as consolé. Mais toi aussi, il va te consoler, parce qu'il ne fait pas de différence. Il t'aime. Et nos émotions tumultueuses peuvent alors nous servir à accomplir un service efficace. Vous voyez ? Et souvent, on dit, pourquoi j'ai vécu ça ? On ne sait pas trop pourquoi. Des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas. Et des fois, on se dit, c'est comme ça, et je dois vivre avec. Mais qu'est-ce que je peux retirer de ça ? Je peux retirer que, regardez, j'ai perdu du temps, là, j'en mets feu d'aller directement vers Dieu, mais mes émotions m'ont submergé. Et puis Dieu est en train de rééquilibrer ma vie. Avant, j'étais très émotionnel, je le suis un peu moins, et j'ai compris la place de la foi par rapport aux émotions. J'ai compris ces choses. Vous voyez, tout ça, on peut le développer, mais c'est quand on le vit. Parce que quelqu'un peut dire « j'ai la foi » et ne vit pas la foi, c'est facile de le dire, mais quand tu vis dans la foi, tu peux donner des expériences qui démontrent la foi. Et ça, c'est une chose importante. Et nous voulons, bien sûr, on a plein de choses à dire encore là-dessus. J'ai fait que trois aspects. Alors, je voudrais rappeler le verset de départ pour conclure. Quand mon corps et mon cœur s'épuisent, mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi. Vous êtes d'accord ? C'est une vérité ? Ouais. Mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est Dieu pour toujours. Alléluia. Ça aussi, c'est une vérité bien plus grande que la première. Hein. La première, c'est une évidence. Là, c'est une vérité essentielle. Mon frère, ma sœur, notre Dieu est un Dieu qui connaît nos cœurs. Mais il connaît toutes choses. Il connaît l'avenir, la toute-puissance, toute autorité. Il sait même quelles sont les raisons des situations. Nous, on ne sait pas. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'on peut maintenir notre foi dans le Seigneur. On peut même l'augmenter. Et dans ces moments où on a été consolé, on voit un relèvement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait que bénir le Seigneur. Oh, je n'ai jamais cru que je pourrais passer cela. Mais tu es là et tu as été fidèle. C'est pas vrai ? Dieu nous aime d'un amour extraordinaire. À lui, sa voix, la gloire. Alors, je crois que Dieu ne veut pas que nous soyons des individus dénués de toute émotion. Je ne fais que résumer. Hein, on n'est pas dénués d'émotion. Oui. Mais nous sommes des êtres vivants qui sont aussi pleins de foi, qui veulent être pleins de foi, qui sont vibrants, sensibles, et qui sont surtout transformés par sa présence. Sa présence en nous, c'est essentiel. Tout à l'heure, on a chanté, peut-être, parce que j'ai pris des notes quand même, par rapport à des phrases... Dans nos ténèbres, tu brilles, ces phrases de chant. Dans nos ténèbres, tu brilles. En te voyant, qu'est-ce qu'on fait ? Nous retrouvons la force de quoi ? De vivre. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert. Le désert, on n'a pas envie de dire béni soit pour le désert, mais pourquoi ? Parce que tu es là. Tu es là. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, hein, c'est la réalité de notre humanité, mais notre foi nous donne de vivre dans cette dimension de force et de courage. La force que Dieu nous donne, ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne, par son esprit. Alléluia. L'amour que Dieu nous donne, ce n'est pas le nôtre pour le prochain, parce que l'amour que Dieu nous donne, c'est un amour qui vient de l'Esprit de Dieu, qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. La patience que Dieu nous donne, mon Dieu, ce n'est pas la mienne, hein, parce qu'elle est pauvre, mais c'est celle qui vient de Dieu, du cœur de Dieu. Donc mon frère, ma sœur, si ton corps et ton cœur s'épuisent, viens et reviens vers lui. Continue à venir vers lui. Cherche-le, soupire après lui. Et demande-lui aussi de t'aider à gérer tes émotions, parce qu'il y a ce qui est intellect, mais il y a aussi l'émotion du cœur qui des fois dépasse un petit peu l'intellect. Mais Dieu est souverain et tout-puissant. On va courber nos fronts. Et je voudrais terminer ce moment en permettant peut-être à quelques-uns, je ne vais pas faire un appel à venir devant, hein, pas ce matin. Je voudrais juste, peut-être si quelqu'un est concerné, parce que je me suis dit, bon, ce sujet, je prêchais, bon, ok, j'ai déjà fait, mais peut-être quelqu'un a besoin, c'était fortement sur mon cœur, quelqu'un a besoin d'être béni de Dieu dans ces moments qui traversent, des moments particulièrement compliqués. Mais ce que tu as entendu ce matin t'encourage à mettre ta foi en lui. Et si c'est votre cas, vous pouvez simplement vous lever à votre place. Je vais prier, après on conclura par les annonces. Mais prenons ce temps, quelques minutes. Et puis si vous êtes dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu, ben bénissez le Seigneur. Hein, et rappelez-vous le chemin parcouru, tout ce que Dieu vous a donné comme grâce. Mais Dieu est avec vous et Dieu vous bénit. Alléluia. Ta parole n'est pas juste une parole écrite du passé. Une parole pauvre, juste d'information. Mais c'est une parole qui révèle toute ta puissance, ton autorité, ton amour. Et ce matin, je veux te prier pour tous les bien-aimés qui se lèvent. Tu connais les besoins profonds. Tu connais les besoins même dans le corps, dans le cœur, dans les pensées. Tu sais ce qui épuise, tu sais ce qui affaiblit. Mais tu es le Dieu de la vie. Oui, nous pouvons compter sur toi. Oui, notre bien le plus personnel, c'est toi Dieu. Pour toujours. Et ces bien-aimés se lèvent devant toi pour, Seigneur, attester leur désir de répandre leur cœur devant toi, de répandre leur attente, de compter sur toi, de rechercher en toi la vie. Et la vie qui ne vient pas de l'humanité, mais qui vient de ton cœur de Père, de ton trône. Bénis-les abondamment. Bénis-les abondamment. Où elle est dans leur âme, viens stabiliser les pensées, viens apposer ta paix. Produire une paix surnaturelle qui garde nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. Oui, bénis ces bien-aimés. Que l'ennemi n'ait pas raison en les faisant s'isoler, en les amenant à décrocher. Bien au contraire, que par ton sang précieux, tu les bénisses et tu les touches. Nous bénissons ton nom et nous croyons que tu fais grâce. Amen. Amen.